Et on est toujours en direct de Pilo au collège Truffaut de Lyon sur Radio Anthropocène dans le cadre du festival à l'école de l'Anthropocène 2024. Merci à toutes, merci à tous de nous écouter. Tous les jours dans l'émission on s'engage, oui, on va vous proposer de rencontrer des acteurs qui s'engagent donc sur notre territoire. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Charles Delacombe, porte-parole d'Alternatiba Rhône. Merci beaucoup d'être avec nous, bonjour.
Mais avec plaisir, bonjour.
Alors Alternatiba, c'est un mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique. Et donc on va essayer de revenir ensemble sur la lutte que vous menez contre la pollution aux PFAS, les polluants éternels dans la vallée de la chimie. Alors, les PFAS, ou plutôt les perfluorés, c'est donc une question qu'on a quand même pas mal abondée déjà, abondamment évoquée, pardon, je vais y arriver avec les mots, sur Radio Anthropocène. Mais je pense que c'est toujours bien de le rappeler, qu'est-ce que c'est exactement que ces PFAS ?
Oui, donc effectivement, c'est une problématique qui est beaucoup abordée depuis quelques mois, quelques années,
ouais, y compris
à l'international. Hein, ça a vraiment explosé l'année dernière. Enfin, il y a eu deux films qui sont sortis, hein, qui s'appellent Dark Waters, donc sur Netflix, je crois. Et une très bonne enquête d'Émilie Rousseau de France 3, Vert de rage. Et donc les PFAS sont des composés chimiques, hein, sont des molécules qu'on appelle des perfluorés. C'est toute une famille de molécules qui ont beaucoup d'applications en chimie, puisqu'elles ont beaucoup de propriétés intéressantes. Elles sont très robustes, elles sont très étanches, elles font plein de choses super, des poêles antiadhésives, des vêtements étanches. Elles ont vraiment énormément d'applications, y compris dans le textile, dans plein de domaines. Ce qui fait que c'est un peu les favorites de l'industrie. Et le problème, c'est qu'elles ont un peu les défauts de leur qualité. C'est-à-dire, comme elles sont très résistantes, elles vont être très peu biodégradables, voire pas biodégradables du tout. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les polluants éternels. En fait, elles mettent des années et des années à se dégrader une fois qu'elles ont été relâchées dans l'environnement. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on en retrouve un peu partout. Dans la métropole de Lyon, on en a retrouvé dans l'air, dans les sols, dans l'eau, y compris dans le sang des riverains et des riveraines, et même dans le lait maternel, par exemple. Et c'est des choses qui ont des effets extrêmement nocifs sur la santé. Comme à chaque fois qu'on introduit des éléments externes dans notre corps, il peut y avoir des problèmes de fertilité, il peut y avoir des cancers, des malformations infantiles, tout un certain nombre de joyeusetés qu'on préférerait éviter.
Et alors pourquoi c'est un sujet qui est apparu sur le devant de la scène assez récemment ?
Alors justement, parce qu'il y a eu un très bon travail journalistique dessus. En fait, c'est vraiment un sujet qui court depuis des années et des années. Là, nous, on en parle ici à Lyon avec les usines, les sites d'Arkema et Daikin, mais c'est un problème qui est complètement généralisé. Il y a plusieurs milliers de sites en Europe qui dépassent les normes de rejet, enfin qui font des rejets vraiment toxiques. Il y en a également beaucoup aux États-Unis, il y en a dans le monde entier, en fait. Et donc, c'est que il y a un moment médiatique qui est arrivé où d'un coup le sujet est sorti et ça a fait tache d'huile. Et donc maintenant on en parle et c'est très bien, mais en fait il y a des dommages qui sont faits depuis très très longtemps. Là, si je reviens sur le site d'Arkema, donc
parlons
à Pierre Bénite à côté de Lyon,
situation lyonnaise, ouais.
Voilà, et ben ce site là on sait depuis au moins 2008 qu'il y a des rejets qui dépassent des seuils. En 2013, il a été mis en demeure par l'ADREAL, donc un organisme public de surveillance, pour arrêter ces rejets. Évidemment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour ralentir, parce que ça ne les arrange pas de changer leur process de production. Et puis maintenant que le sujet est un peu sur le devant de la scène, ils ont fini par arrêter certains types de rejets. Il y a également la préfecture qui les a contraints, qui les a menacés sous peine d'amende. Mais le problème, c'est que ce qui se passe à chaque fois dans ce genre d'affaires, c'est qu'une fois que des citoyens, des citoyennes, des scientifiques engagés se sont mobilisés pour démontrer la toxicité de telle ou telle molécule, de tel ou tel rejet, en fait, l'industriel, il modifie un tout petit peu sa formule. Il prend sa molécule qui a une longue queue d'atomes de carbone à la fin, et puis il en enlève deux, trois, il modifie un petit schéma, ce qui fait que la molécule garde les mêmes propriétés. Elle n'a plus le même nom, donc c'est plus elle qui est interdite, mais elle fait exactement la même chose industriellement et dans le corps humain.
C'est un peu comme les chimistes avec les drogues de synthèse.
Exactement.
Et alors, quelles sont vos revendications sur ces sujets-là ?
Nous, on a des revendications qui sont assez simples. Finalement, on fait un peu de l'écologie du bon sens. Aujourd'hui, il y a un processus qui pose problème, c'est ce que je disais juste avant. C'est qu'on a des entreprises qui, parce que leur métier, c'est de produire des choses pour faire de l'argent, qui rejettent des molécules toxiques. Et c'est à charge des citoyens et des citoyennes de prouver que ces rejets toxiques existent, enfin, que c'est, d'une part que ces rejets existent, et d'autre part que ces rejets sont toxiques. Donc nous, ce qu'on demande, c'est une inversion de ce processus, c'est d'appliquer simplement le principe de vigilance. Donc c'est qu'au lieu qu'une entreprise d'abord mette sur le marché des produits, et qu'ensuite on constate que, oh mince, ce produit qui était exactement comme celui d'avant est également toxique pour le corps humain, sapristi. Non, c'est que l'entreprise soit tenue de vérifier en amont la toxicité des produits, et donc s'ils sont toxiques, soit de ne pas les mettre sur le marché et de trouver d'autres solutions, soit de prendre des réelles mesures pour pas qu'il y ait des rejets comme il y en a actuellement et dans de multiples cas. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette inversion, l'application du principe de vigilance. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un préjudice qui est déjà causé. En revanche, c'est compliqué d'en analyser l'ampleur. Et c'est donc, actuellement, il y a des citoyens et des citoyennes, des communes qui se mobilisent pour faire des analyses, pour voir à quel point c'est impossible de consommer les légumes qui sont produits dans le coin, c'est impossible de consommer les œufs des jardins. Et donc ça, c'est un peu problématique. Nous, ce qu'on demande, c'est l'application du principe pollueur-payeur. Donc Arkema et Daikin ont rejeté des éléments toxiques un peu partout autour d'eux. Ben, en fait, c'est à eux de faire ce qu'il faut pour évaluer le préjudice, de payer des études. Et ensuite, une fois que ce préjudice il est évalué, de faire ce que ces entreprises, enfin, que ces entreprises-là fassent ce qu'elles peuvent pour essayer de le réparer un petit peu. Bon, alors les personnes qui ont déjà des cancers, ça va être compliqué de le réparer, mais à minima, on va pouvoir commencer à en prévenir d'autres. Voilà, et, enfin, la situation est quand même assez compliquée. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est de vivre à un endroit, et simplement parce que il y a à côté de vous un site chimique qui est implanté depuis longtemps. En plus, on est bien content qu'il soit là, il fait des emplois. Bref, et puis du jour au lendemain, on vous dit « Ok, les légumes de votre jardin, en fait, vous ne pouvez plus les consommer, c'est dangereux pour la santé. Les œufs de vos poules, là, vous ne pouvez plus les consommer non plus, c'est dangereux. » Et puis même, vous, un jour, vous faites des prélèvements. Dans, ouais. Vous êtes enceinte, vous êtes une mère, vous faites des prélèvements dans votre lait, vous constatez qu'il y a des PFAS dedans aussi. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des évolutions, justement, sur, d'un point de vue juridique sur ces questions-là? Est-ce que ça va dans le bon sens, ou est-ce que c'est vraiment un sujet qui n'est pas assez traité ou trop peu traité?
Alors, pour l'instant, ça ne l'est pas. Il y a des choses qui sont dans les tuyaux. L'État a évidemment été saisi à de multiples reprises sur le sujet. Il y a eu une mission parlementaire, mais c'est un peu compliqué. Elle a été ralentie par le député Cyril Isaac Sibille, qui en est responsable, pour ne pas légiférer avant 2026-2027. Il y a une proposition du groupe EELV qui arrive bientôt à l'Assemblée début avril, pendant leur niche parlementaire. Et surtout, en fait, c'est au niveau, comme je disais, c'est un problème qui est international, ça c'est quelque chose qui pourrait être traité au niveau du droit européen. Et donc là, il y a une échéance qui arrive bientôt, début juin, les élections européennes. Et il va y avoir des candidats et des candidates qui portent des propositions là-dessus. Il va y en avoir qui s'en foutent. Maintenant, aux citoyennes et aux citoyens de faire le choix.
Alors moi, j'ai une question peut-être un tout petit peu plus personnelle. C'est que c'est un sujet hyper technique. Ouais. Donc vous, en tant qu'individu, comment est-ce que vous êtes formé pour comprendre tous ces mécanismes-là?
Eh ben, on travaille beaucoup. Non, plus sérieusement, donc on a des groupes de travail qui se forment. On travaille avec des scientifiques, avec des cabinets d'avocats spécialisés, parce que le droit, les procédures juridiques pour essayer
tout
de
faire aussi complexe. Ouais.
Voilà, c'est un bazar assez incroyable. Je l'ai pas dit, mais évidemment, on n'est pas tout seul à Alternative Baron à bosser sur le sujet. Il y a les procédures en justice, notamment, sont largement chapeautées par l'association Notre Affaire à tous. Il y a plusieurs autres organisations militantes qui sont sur le sujet, Extinction Rebellion, Youth for Climate, on travaille toutes et toutes gentiment ensemble, Greenpeace Lyon aussi, tout ça. Et donc, en fait, ces différentes organisations ont différentes expertises, plusieurs personnes qui travaillent sur certains sujets, qui mettent tout ça en commun. Et donc ensuite, on est en mesure de s'organiser, d'expliquer le sujet un peu plus largement, comme dans des événements comme celui dans lequel on est aujourd'hui. Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur les actions que vous avez menées et sur celles qui sont prévues dans le futur?
Alors celles qui sont prévues, évidemment, elles sont confidentielles, donc je ne vais pas pouvoir en parler.
C'est terrible.
Non, mais qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? Alors, il y a une procédure en justice donc, qui est en cours depuis mai dernier. Actuellement, on va aller en cassation, parce que ça s'est mal passé jusqu'ici, mais on ne laisse pas tomber. On s'est rendu plusieurs fois sur le site d'Arkema en faisant différentes choses. Il y a une fois, on s'est contenté de venir pour rendre visible l'invisible et afficher avec des pancartes, des dessins au sol, etc., cette pollution. Une autre fois, on est un petit peu monté en puissance, on a bloqué l'entrée pour les salariés pendant un certain temps. Un peu plus récemment, il y a Extinction Rebellion, Youth for Climate qui se sont introduits sur le site. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de montée en puissance, en fait, et au fur et à mesure que les citoyennes et les citoyens voient que les choses ne bougent pas assez vite et qu'il y a une entreprise qui, pour faire ses profits, continue de nuire à nos vies alors que la situation est claire pour tout le monde, et bien forcément, ça a tendance à agacer un petit peu les gens qui décident de faire des actions de plus en plus coup de poing.
Et justement, si on est un citoyen ou une citoyenne et qu'on a envie de s'engager avec, à vos côtés, comment on fait ?
Alors, donc, sur le sujet d'Epifas, j'en ai touché un mot juste avant, mais donc il y a notamment le fait de voter à des élections. Pour un côté plus militant et pour s'engager dans nos associations, alors nous, à Alternative Baronne, là, on a plusieurs dates qui arrivent assez vite. Début avril, le 10 avril, on a une formation aux actions de désobéissance civile. Là, le 25, lundi prochain, on a une soirée de présentation et de recrutement où on peut venir pour apprendre un peu les actualités du collectif qui ne se résument pas au PIFAS, heureusement, et pouvoir intégrer un groupe de travail. On essaie d'avoir régulièrement des soirées de présentation publique, de formation pour que les personnes puissent nous rejoindre. Et vraiment, tous les profils sont bienvenus. Il y a toujours beaucoup de choses à faire.
Eh bien, Charles Delacombe, un grand merci d'avoir participé à cette émission.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Beaucoup de courage dans votre, dans votre militantisme et dans les actions que vous menez, notamment contre la pollution au PFAS, mais dans tout le reste des actions menées par Alternative Baronne, qui, je rappelle, est un mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique.
Et la justice sociale,
pardon, j'ai oublié ce petit point qui n'est pas si anecdotique que ça. Dans l'émission On s'engage, demain, on se retrouve avec Extinction Rébellion, des collègues à vous. On parlera plutôt de l'eau, parce que demain, c'est la journée mondiale de l'eau. Mais tout de suite, sur Radio Anthropocène, on continue avec Demain la santé. Et Damien Rondepierre s'intéressera au cas des punaises de lit. Tout de suite, on fait d'abord une petite pause musicale. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Anthropocène. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.